Oui, il est l'heure de retrouver Bruno pour Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors aujourd'hui, on va parler de Ginseng Roots de Craig Thompson. Alors, on connaissait Blankets et Habibi, qui sont les deux livres de Craig Thompson qui ont marqué durablement la bande dessinée. Mais malgré ce succès, avec des traductions dans plus de 40 pays, quelques cases de son dernier livre montrent sa difficulté à vivre de son art. Avec Ginseng Roots, l'auteur états-unien retrouve un récit d'ampleur où s'entrelacent autobiographie et récits sur le ginseng. Craig Thompson était de passage en France lors d'une tournée européenne et vous pouvez l'entendre avec cet entretien enregistré le vendredi 27 octobre avec le concours d'Anna Lippmann pour la traduction et de Fabien de Radio Excapade pour la partie technique. Eh bien, on se retrouve tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de retrouver Craig Thompson, je voudrais encadrer ce livre, Ginseng Roots, par deux autres. Donc, je vous présenterai Sa Majesté des Mouches et puis Zodiac. Et puis, la programmation musicale a été faite par l'artiste, par Craig Thompson. Donc, on va pouvoir écouter deux extraits du prologue de Kimasi Washington. Et puis, le troisième morceau, ça sera un extrait de Home de LCD Sound System. Alors, une brève pour commencer, puisque Entrée Libre a proposé à diffuser sa programmation d'automne. Entrée Libre, c'est cette librairie à Montpellier qui nous permet d'avoir un accès à toute l'édition indépendante. Et ça, c'est assez réjouissant. Donc, cet automne, on y trouvera des ateliers d'initiation à la linogravure le samedi 19 et le samedi 23 octobre. Éric Veillé sera en dédicace le samedi 19. C'est l'auteur du Sens de la vie et ses frères aux éditions Cornelius et puis de très nombreux livres jeunesse parus chez Actes Sud. Et puis il y aura aussi le son avec cette ODN Oiseau de nuit dont la deuxième édition aura lieu le 11 et le 12 octobre. C'est un vendredi et un samedi. Et puis il y aura aussi d'autres belles choses en novembre qui sont déjà programmées. Plus d'infos sur la page Facebook d'Entrée Libre. Virgule. C'était les Shadocks. Alors, Sa Majesté des Mouches est un roman de William G. Golding qui a été écrit en 1954, qui a été adapté au cinéma par Peter Brook en 1963. Et c'est un roman qui a eu une renommée mondiale, qui a été traduit dans de très très nombreux pays. Et il n'y avait pas eu d'adaptation en bande dessinée. Donc, c'est fait. Et c'est Aimé de Jong, qui est une artiste néerlandaise et qui a quelques très belles réalisations, puisque c'est elle, par exemple, qui avait publié Ce jour de sable, qui est un très beau roman graphique sur une sorte d'envahissement par le sable de contrées américaines. Alors, immergeons-nous dans ce récit de Sa Majesté des Mouches à travers la quatrième couverture de ce roman graphique. Un avion s'écrase sur une île déserte. Les seuls survivants sont un groupe d'écoliers. Explorateurs de plages splendides le jour, les jeunes garçons sont visités la nuit par le spectre d'une créature primitive et hantés par leurs précieux souvenirs. Orphelins de la civilisation, ils doivent à présent bâtir la leur. Mais le groupe se trouve rapidement divisé et leurs jeux innocents prennent une dangereuse tournure. Alors, le roman, et comme le roman graphique, évacue très justement toute une partie du réel, c'est-à-dire où est-ce que l'avion s'est scratché, quid de la carcasse, et les adultes qui sont tous morts, où sont-ils? Voilà, bon, ça, on n'en parle pas. Et le récit se concentre vraiment sur ce groupe d'écoliers. Enfants, ils sont plutôt jeunes, qui viennent de la haute bourgeoisie anglaise et qui vont donc devoir cohabiter. Alors, il y a avec ce récit des questions assez essentielles, puisque alors, c'est une dystopie, c'est pas, on va pas vous imaginer un jardin spectaculaire et les enfants vont y être les plus heureux du monde. Mais non, ça va vraiment être comment s'organiser avec ce groupe, quid de la nature humaine, vers quoi allons-nous naturellement pencher? Et donc il y a eu le choix d'un chef qui s'est fait très vite. Ralph va prendre les devants et va se mettre au premier plan de ce groupe. Et puis il va être très vite accompagné par un autre garçon à lunettes qui est surnommé Cochonnet et qui va devenir ce deuxième personnage principal. Et puis l'unité du groupe, l'unité rêvée, fantasmée, va vite se retrouver battu en brèche, et notamment avec ce personnage de cet enfant à lunettes qui a été surnommé Cochonnet et qui se retrouve victime des mêmes moqueries dans sa vie que dans sa vie passée. Il y a bien sûr un enfant, un jeune préado qui va contester la direction de Ralph. Il s'appelle Jack et il va créer une scission. Il va constituer un groupe de chasseurs. Le recours à la violence va se développer et il s'oppose à cette démocratie qui s'est mise en place avec une conque que l'on doit avoir entre les mains pour pouvoir parler quand on est en groupe. Ce principe du bâton de parole que beaucoup de communautés pratiquent. Il y a donc cette façon de montrer quelle est la dimension humaine innée. Est-ce que l'homme est bon? Est-ce qu'il est au contraire mauvais? Est-ce que c'est mitigé? Donc c'est vraiment un récit philosophique, mais qui il y a une tendance un peu au pessimisme, notamment parce que ça a été mis en relation avec un événement qui a eu lieu en 1965 où des adolescents tonguiens qui étaient sur un bateau ont été naufragés et ils se sont retrouvés sur une île, mais eux ils se sont parfaitement organisés. Ils ont évacué ces principes de la violence et montrent qu'il peut y avoir une autre issue possible. Ce n'est pas le propos de William J. Golding et donc il y a dans son récit cette façon dont très finement, par petites touches, la situation se dégrade. Alors, ce qui est très fort avec l'adaptation d'Aimé de Jong, c'est d'une part, elle a un sens du récit très fort, de bénéficier de cette matière narrative préalable lui permet de donner toute son ampleur aussi bien à la mise en scène, le découpage, que à la mise en image. Et elle va nous placer au plus près des personnages. C'est un récit qui se déroule à hauteur d'yeux. On n'a pas des effets de plongée, de contre-plongée. Il y a bien sûr des vues un peu différentes parce que l'observateur qui pourrait servir de point de vue pour le dessin, eh bien, va toujours voir plus loin, voir s'il est en hauteur, bah comment il va voir la variation des plans. Et c'est à chaque fois cette qualité de mise en scène qui rend le récit complètement fluide. Et puis il y a le trait d'Aimé de Jong, qui varie dans l'épaisseur, qui est créé par l'accumulation de petits traits, une absence de certitude. Il va porter cette fragilité parce qu'il n'est pas dans un geste précis qui veut faire ce contour parfaitement limpide. Donc son propos est vraiment de jouer sur cette juxtaposition de petits traits. Alors, c'est une variation qu'on intègre tout de suite parce qu'il y a une unité d'ensemble et le résultat est là. Il y a une tension qui habite le dessin, cette fragilité qui est celle de ce groupe d'enfants sur cette île déserte, naufragée, et qui doivent réinventer le vivre ensemble. Les couleurs animées profitent de cette même variation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aplat franc, il y a toujours un sentiment qu'une granulosité du papier fait des variations sur chaque couleur utilisée et ça donne beaucoup de vie à l'ensemble de ces images. C'est vraiment une étonnante réussite, ça montre cette qualité d'écriture dessinée d'Aimé de Jong et Sa Majesté des Mouches, qui est un roman, comme disait Antoine tout à l'heure avant l'émission, on a lu ça au collège, ça peut être très riche de discussions après, mais c'est un récit d'une très grande intensité et qui garde pleinement sa force. Sa Majesté des Mouches d'Aimé de Jong est un récit donc adapté de William J. Golding. Ça a été traduit par Nora Boisouni. Le lettrage de cette édition française est d'Éric Montesino. C'est publié par les éditions d'Argo. Les 352 pages de ce récit sont au prix de 35 €. Et on retrouve après le premier extrait de Kamasi Washington, eh bien, Craig Thompson. Ginseng Wounds est le nouveau roman graphique fleuve de Craig Thompson comme Habibi ou Blankets. Il comble des espaces que Blankets, le premier récit autobiographique de l'auteur américain, avait ignoré. Craig Thompson a passé toute son enfance à Marathon dans le Wisconsin, où ses parents cultivaient le ginseng. Il devient le personnage principal de ce nouveau récit. L'auteur convoque ses souvenirs et associe ceux d'un ami, Chouane, qui lui est resté à Marathon pour reprendre l'exploitation familiale. Il devient journaliste, enquête sur le ginseng asiatique, se déplace en Chine, en Corée, à Taïwan. Craig Thompson puise dans son histoire familiale, tout comme le ramasseur de ginseng sauvage qui dégage les racines méticuleusement, et il explore les racines, les suit, puise la sève, retrouve une empathie familiale tout au long du récit. Une chaîne narrative suit son incapacité à dessiner, écriture perturbée par des traumatismes aux mains hérités de l'enfance. Avec son dessin précis, au plus près des personnages, traçant chaque geste, chaque expression avec justesse, rehaussant le dessin d'un rouge lumineux, convoquant le noir pour rythmer la page, Craig Thompson inscrit son autobiographie dans notre monde et son évolution, impliquant les grandes questions de nos sociétés, l'écologie, les ravages de l'économie mondialisée, la perte de spiritualité. Un graphic novel remarquable par cet art de faire d'une histoire familiale un marqueur de l'histoire universelle. Craig Thompson avec Ginseng Roots est au monde.
Thank you.
Bonjour Craig Thompson.
Hello Anna, hello Bruno.
Alors, dans Ginseng Roots, il y a cette chaîne narrative sur votre incapacité à dessiner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce graphic novel soit possible, puisse exister?
Great first question. It took a long time. It took 8 years. And probably the initial impediment was emotional or psychological, because I was feeling very discouraged at that point in my career.
Super première question. Ça a pris très longtemps, ça a pris à peu près 8 ans. Et probablement la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est que j'étais très émotionnelle dans cette année.
My career in the U.S. has been difficult for the last decade, ever since the release of Habibi, which conversely is quite lauded in France.
Ma carrière en Amérique a été assez compliquée depuis Habibi. Mais Habibi est un livre, un roman graphique très reconnu en France.
So I was struggling with you know, the difficulty of making a living within the career, too much criticism, a real crisis of confidence, and perhaps a midlife crisis of just not knowing why I was working in this career and if I should continue in it.
Alors j'avais beaucoup de mal à faire une capacité de vivre avec mon art à cette époque, et je pense que j'avais beaucoup de mal aussi avec la confiance, beaucoup de critiques et même de me demander si j'étais pas dans une difficulté de milieu de vie. Pourquoi je continuais à faire ça.
And then there was, excuse me, and then there was the physical component. When I began research on this project, in the very beginning, I injured my hand on a research trip to China, and that triggered what was like an autoimmune response in my hands, something that was already embedded within me genetically, but it seemed to be activated by both the physical trauma and perhaps the emotion, psychological attachment I had to that pain.
Et après, il y avait le côté physique qui a été très dérangeant, qui a été démarré par une problématique que j'ai eue pendant que je faisais les études, les recherches en Chine pour le début de ce récit, et qui a fait une sorte de problématique auto-immune et qui était peut-être liée aux problématiques de émotionnelles, mais qui était déjà en moi et qui a remonté en début de ce travail.
Ginseng Woods, c'est un récit d'ampleur, il y a 435 planches. Qu'est-ce qui fait que vous appréciez cette longueur et comment, en fait, elle existe? C'est comme si beaucoup de récits plus courts qui auraient été possibles, vous les évacuez pour qu'ils ne soient pas et que soit celui avec toutes ses ramifications.
I think that comes from the pleasures of being a reader, and I like to be really immersed in a book and get lost in sort of labyrinthian, you know, alleys. So, as a creator, I also want to replicate that experience of drowning in the pages, so to speak.
Je pense que ça vient du plaisir de lire et d'être un lecteur et de m'immerger entièrement dans cette façon d'apprécier. J'ai envie de reproduire cela, cette impression de couler dans les pages et dans l'histoire.
Comment le récit, votre récit, se construit-il? Est-ce que vous tenez à avoir un récit fini, écrit, avant de le dessiner? Ou est-ce qu'il y a une part de cheminement entre le texte et le dessin au fur et à mesure?
It certainly evolves because with all of my books, I've never known the ending before I started, which is probably not the ideal way to write a book. But whether that was Blankets or Habibi or this one, I was drawing for 2, 3, 4 years without any sense of where the book was going to end.
C'est sûr que ça évolue. Avec tous mes livres, je n'ai jamais connu la fin avant de commencer. Et que ce soit celle-ci ou Habibi, j'ai dessiné pendant 2, 3, 4 ans avant de savoir exactement comment ça allait terminer.
But with this book, you know, I started with my own personal memories, and then I reached out to my family, to my brother, my sister who's not in Blankets, and to my parents, and started building on my personal memories with their memories. And then from there, I interviewed the farmers who were my employers when I was a child, and then I started to meet contemporary farmers who have mega farms that are 1,000 times the size of the gardens I grew up working in.
Ça a commencé déjà avec mes mémoires personnelles, et puis j'ai commencé à demander à ma famille, à mon frère, à ma sœur qui n'est pas dans Blankets, et à mes parents. Puis j'ai élargi aux cultivateurs qui m'ont employé quand j'étais enfant, et en fin de compte aux cultivateurs qui ont contemporains, qui ont des cultivations aujourd'hui, qui sont 1000 fois plus grands que les exploitations sur lesquelles j'ai travaillé enfant.
À plusieurs reprises, dans Ginseng Woods, vous évoquez les réserves ou les contrariétés que votre famille, vos parents, ont eues lorsque vous avez écrit Blankets. Vous l'avez dit, votre sœur était absente, donc là, toute la famille est présente. Est-ce que dans l'écriture, ces réserves ont fait changer la forme? Est-ce que vous avez présenté, travaillé avec eux, attendu leur retour ou comment s'est modifié l'écriture pour Ginseng Roots?
With Blankets, I was, you know, building it internally, and I did not include my parents in the process. And this book was far more inclusive and also documentary. And so it gave me that opportunity to amend some of the shortcomings of Blankets. The dialogue in Blankets is recreated from memory or fictionalized, whereas everything in Ginseng Roots is recorded and transcribed by hand. And then afterwards, anyone I've interviewed, I give them the chance to approve or edit and change what shows up on paper.
Blankets, c'était une histoire construite intérieurement. Il n'y avait pas les parents. Et cette récit de Ginseng Roots est beaucoup plus immersif. Et ça m'a permis de rétablir les difficultés ou les choses que j'ai dû laisser de côté dans Blankets. Les dialogues dans Blankets provenaient intégralement de mes souvenirs et de mes récollections. Par contre, ce qui se passe dans Ginseng Roots, tous les dialogues ont été enregistrés et retranscrits. Et j'ai même donné l'opportunité aux personnages que j'ai interviewés à donner leur avis ou à changer ou à dire ce qu'ils ont pensé.
Il y a également dans Ginseng Roots un regard sur le monde, sur une interrogation sur la façon de cultiver le ginseng, sur cette économie mondiale qu'on découvre. Le ginseng américain, je crois que ça a dû être une surprise pour beaucoup de Français de découvrir l'intensité de cette culture dans le Wisconsin. Et il y a donc une volonté de dire le monde. Comment, dans l'écriture, c'est construit ce regard? Comment vous l'avez inséré et entrelacé avec votre histoire personnelle?
Well, partly the book was born out of the collective trauma of Trump's election in 2016. And trying to wrap my head around this political cultural divide that was erupting through the country. And when Trump was elected, I was living in Los Angeles among what I might define as the cultural elite. Nobody imagined that Trump would get elected, and we were all surprised. And then everybody looked at me to explain what was going on, because I was from the interior of the United States. I was from poor, working-class background, white communities.
Ce livre évolue de le trauma collectif de l'élection de Trump et de ma façon d'expliquer cette division politique et culturelle de le peuple. Et à l'époque où Trump a été élu, j'habitais à Los Angeles, qui est là où habite l'élite culturelle de l'Amérique, ou une partie, et personne n'imaginait que Trump pouvait être élu à cette époque. Et donc, à ce moment-là, on m'a regardé pour que j'explique depuis l'intérieur pourquoi ça s'est fait. Et parce que moi, je viens de l'intérieur de l'Amérique, d'une famille de classe plutôt travailleuse et plus, avec moins de possibilités. Donc...
Yeah, these small communities being swallowed up by, you know, globalization and the loss of their local economies, loss of the family farm, and everything being replaced by giant corporations. I'm sorry, should I? Maybe I should re.
That's fine. I can do something with that. put down a few of what you said. Okay. Et j'ai ressenti beaucoup de sympathie avec les petites fermes et exploitations familiales, les pertes des économies locales et les disparitions des petites communautés qui ont été englouties ou remplacées par des énormes corporations.
Plus du dessin et de la mise en scène. Je voudrais savoir comment vous avez suivi ce récit de longue haleine. Est-ce que vous avez relu, déplacé des scènes, refait un montage général, coupé, enlevé des scènes que vous ne vouliez plus? Quels sont les moments de cette cuisine narrative?
Certainly there's a lot of moving about, and that was the problem with the series I created in the US. Initially this was created as a 12 issue comic book series. Each is 30 pages. And when I finished the series in September of last year, 23, I reread all 12 issues, and I really felt like a narrative arc was missing. And I had to shatter the whole container and piece back together the book in a new form, and I added many, many pages, at least 60 pages of pretty serious themes that weren't there in the original series.
Bien sûr, il y a beaucoup de mouvements, de scènes, de changements d'emplacement, et ça c'était le problème avec la série que initialement j'allais faire aux États-Unis. Au début on voulait faire 12 volumes de à peu près 30 pages, et quand j'ai fini la série fin 2023, j'ai relu les 12 volumes et j'ai trouvé qu'il manquait vraiment un arc narratif. Et donc j'ai repris le tout, j'ai tout cassé pour finalement ajouter beaucoup de pages, presque 60 pages en plus, avec des éléments vraiment importants.
Alors, sur le plan du dessin, à un moment dans Ginseng Woods, vous dites que vous n'avez pas envie de vous dessiner. Et alors là, on vous voit beaucoup, vous vous dessinez beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe?
I was very reluctant to do autobiography. I've resisted it for years, despite a lot of pressure from readers and publishers to do another sequel of sorts to Blankets. But I do find that putting myself there is a good entry point for the reader. It's a familiar character of sorts, and it's very vulnerable, and that vulnerability helps with the relatability, I think, of the narrative.
J'étais très averse de me mettre dans le récit, mais même de faire quelque chose de autobiographique, malgré beaucoup de pression de lecteurs et d'éditeurs de faire un récit en plus après Blankets. Mais le fait de me mettre en scène a permis de ramener un personnage familier, une vulnérabilité que je pense aide énormément à toucher et à rendre le récit plus communicatif.
Alors il y a dans Jean Saul Woods cette force de la bande dessinée et on n'imagine pas le livre dans un autre médium, c'est cette facilité à faire parler une racine de ginseng, à utiliser des images symboliques, à ouvrir le réel vers un imaginaire que le lecteur voit ensemble. On sent un plaisir chez vous à faire ces images.
Well, merci beaucoup. Well, you know, in fact, there was two books I read during my research that initially discouraged me because they were very similar in outline to my book. But the main difference is both of them were prose, so they lacked all those dimensions of the graphic element. And then the second thing was neither author had any personal experience with ginseng themselves. So, that was the pleasure, and that's what I leaned into, is both the personal and the graphical elements of this story.
J'ai lu d'abord deux livres pendant mes recherches qui, en fait, au début, m'ont découragé de faire ce livre parce qu'ils étaient très similaires, je trouvais. Alors, les grandes différences avec les deux livres qui m'ont initialement découragé étaient... Déjà, les deux étaient en prose, étaient écrits, et aussi que les auteurs n'avaient aucune vraie connaissance du business du ginseng, de la culture du ginseng. Et moi, mon grand plaisir était vraiment le côté personnel et graphique de mettre ça en forme.
And the secondary color, the red color in the book, really allowed me a lot more possibilities or dimensions with the graphic design. It added layers of dimension, but also I was able to jump through time using the red color. So that was a new tool I hadn't used before.
Et la couleur rouge secondaire dans ce nouvel graphique était vraiment un nouvel outil pour moi qui m'a permis beaucoup de différentes choses comme des différents niveaux de dimension, de passer le temps différemment, d'aller dans les différentes époques, chose que je n'avais pas vraiment fait. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça.
Il y a aussi dans votre dessin un soin très particulier sur la gestuelle, sur les gestes et sur les expressions. Il y a une fluidité de la lecture parce que chaque personnage est à sa place, est dans son geste et dans son émotion. Comment travaillez-vous ce dessin des personnages et leur gestuelle?
Oh, that's another great question. Well, this book was much more, as I don't know, but referenced, photo referenced and otherwise, than anything I've done before. Again, I think the drawing in Blankets was very intuitive. This time I took many photos and videos and was working hard to capture people's likeness, and just really capture their individuality. I didn't want them to look like caricatures or generic cartoons. And it was important for me that it wasn't just talking heads, as we say in English. I was always looking for the body language and the way they interacted with their environment.
Sur ce livre, j'ai utilisé beaucoup plus de références photographiques. Quand j'ai dessiné Blanket, c'était très intuitif. Et pour Ginseng Roots, j'ai pris des photos, j'ai fait des vidéos. Et j'avais très envie que les personnages ressemblent à eux-mêmes et pas à des personnages de bande dessinée. Donc j'ai beaucoup travaillé ça. Et c'était très important pour moi que les personnages ne soient pas juste des têtes qui parlent, comme on dit en anglais. J'ai beaucoup observé le langage du corps et comment ils interagissaient ensemble pour pouvoir transcrire cela.
Il y a dans la mise en scène, le découpage, vous conviez toutes les possibilités de la bande dessinée, vous en créez même de nouvelles. Donc on a le découpage classique avec les bandes d'images, les strips, et puis des cases qui se juxtaposent, qui s'interpénètrent. Et puis ces cadres rouges, ces différents récitatifs, ces façons d'écrire le texte dans l'image. Là aussi, est-ce que vous étendez votre grammaire de la bande dessinée? Est-ce que vous découvrez encore de nouvelles pistes?
I suppose so. I mean, it was taking from an entire arsenal, combining, and then also narratively combining, you know, the memoir with the documentary and with the travel log and with elements of mythology too. So, yeah, it was a goulash of many different visual and narrative styles.
Je présume bien, oui, c'était tout un travail de combiner les souvenirs avec les images, avec la recherche, et ça a fait vraiment un goulash de différentes formes pour arriver à faire cela.
Quel horizon dégage devant vous le fait d'avoir fini ce livre? Il a donc eu un cheminement très long, notamment avec ces difficultés de dessiner, cette impossibilité de dessiner. Est-ce que ça va vous permettre de reprendre, de refaire de la bande dessinée plus régulièrement? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir fini Ginseng Roots?
For most of the project, I thought this would be the final book I ever create, which is maybe one of the reasons I threw everything into it. But since I've been on tour in Europe, I've been 1 month in France now, I feel new books percolating within me. So there may be a future for me creating future books. And a lot of that has to do with just feeling more encouraged by the reception and the industry and attitude towards the arts in Europe.
Pendant la plupart de ce projet, j'ai vraiment pensé que ça allait être ma dernière livre et que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant mis tout ce que j'avais dedans. Mais depuis que je suis en tournée en Europe, ça fait un mois que je suis en France, je sens des nouveaux livres qui percolent ou qui remontent un peu dans mon esprit. Et ce qui me fait penser qu'il y a peut-être une future pour moi dans les livres ou d'en faire d'autres. Et je suis vraiment très encouragée par les réactions des différentes, le milieu de culture du bande dessinée ici en Europe.
Merci beaucoup, Craig Thompson, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, très bon séjour en Europe, en France. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Bruno. I'm honored to hear that. Merci, Anna, for translating.
Merci.
This has been great. Thanks for the thoughtful questions.
Goodbye.
Avec plaisir. Au revoir.
Voilà, c'était donc Craig Thompson. Alors, les caractéristiques de son livre, Ginseng Roots, donc de Craig Thompson, j'insiste, est publié par les éditions Casterman. La traduction. Ils sont trois à avoir travaillé sur la traduction. Il y a Isabelle Licard-Guillaume, Laetitia et Frédéric Vivien. Le lettrage est de Philémon Chailleux. C'est important. Il y a une vraie fluidité aussi dans la gestion de ce lettrage. Les 418 pages de ce roman graphique, les 448 pages, pardon, de ce roman graphique sont au prix de 27 euros. Et l'entretien a été traduit par Anna Lippmann et pour la partie technique, c'était Fabien Joubert qui a assuré la prise de son. On écoute LCD Sound System. Pour terminer cette émission, je voudrais vous présenter Zodiac. C'est le premier roman graphique d'Ai Weiwei, qui est un artiste mondialement connu. C'est un artiste nomade qui a commencé par la peinture, puis qui a œuvré dans divers domaines, divers médiums. Et c'est donc un artiste contemporain qui est aussi documentariste et activiste. Ce roman graphique est issu d'une collaboration notamment avec Elettra Stamboulis, qui est scénariste, qui est critique, qui est spécialisé dans la bande dessinée réaliste, et Gianluca Costantini, qui est un militant des droits de l'homme, dessinateur, illustrateur, auteur de bande dessinée, et qui s'est donc associé aussi à cette écriture du premier roman graphique des Wei Wei. Alors, le récit est un récit magnifiquement illustré, profondément philosophique, sur Ai Weiwei, où il va explorer le lien entre l'expression artistique et la liberté intellectuelle, tout ça à travers le zodiaque chinois. Donc il est inspiré par les 12 signes de ce zodiaque et les caractéristiques humaines qui leur sont associées. Ai Weiwei va entremêler le folklore chinois ancien et les récits de sa vie et de sa carrière. Dans sa préface, voilà ce qu'il dit pour préciser cette pensée. La compréhension poétique de notre existence, si tant est que nous soyons capables de l'appréhender sous cet angle, révèle à la fois sa beauté et ses immenses défis qui résonnent à travers le temps du passé au présent. Zodiac, autobiographie lorgnant parfois vers le conte de fées, offre du réconfort en proposant un langage qui permet à chacun d'explorer sa relation à l'histoire, au pays et à la politique. Terrain souvent semé d'interprétations brutales, mais chaleureux et riche d'affection, ainsi que d'imagination. Alors, il y a un lien très fort entre le récit de ces 12 chapitres qui sont marqués par chacun par un signe du zodiaque chinois et l'œuvre de Ai Weiwei. Alors il y a un passage dans le début du récit où il va évoquer une de ses œuvres remarquables qui est Sunflower Seeds, les graines de tournesol, qui est une installation qui a été faite pour la Tête Moderne à Londres, où il y a dans une très grande salle un immense tapis de graines de tournesol. Et donc... Et il y a dans la présentation et dans le commentaire qui en fait Ai Weiwei, le dessin qui va utiliser la force de la bande dessinée en créant une nouvelle image où les graines de tournesol vont s'immerger dans le visage d'Ai Weiwei. C'est vraiment un livre où lui va commenter non seulement son art, mais aussi la situation du monde, les situations politiques et des réflexions plus générales sur l'art et sur l'activisme. Par exemple, sur l'activisme, à un moment, il affirme et il dit « Le courage, c'est de dire la vérité ». Chose qu'il s'est attaché à faire, comme par exemple avec ce projet où il est allé à Gaza et rencontré un certain nombre de réfugiés et à d'autres endroits dans le monde pour montrer ce qu'était la condition de réfugié. Et puis, il y a d'autres réflexions comme celle-ci qui rejoint la préface. La poésie est l'unique outil de rébellion et c'est une citation de Liu Xiaobo qui a été un des principaux acteurs de la révolte de la place Tiananmen. Sur l'art, l'art n'est que le point de départ. Et on peut voir dans le déroulé, page 96, il y a un très beau échange sur l'art. En art, perdre le contrôle est bénéfique. On travaille toujours ainsi. Et Ai Weiwei de répondre. En général, les gens vivent dans la peur, et la peur est l'outil le plus productif de notre société. Mais en art, c'est un frein. L'art est une forme spécifique de liberté d'expression. Si celle-ci n'existe pas, on ne peut pas parler d'art. Il y a vraiment, à travers ce roman graphique, une façon de d'écrire et d'utiliser le dessin pour pouvoir échanger, communiquer, transmettre ce qu'est cette position de l'artiste contemporain aujourd'hui. L'art n'est l'outil le plus puissant, l'art est l'outil le plus puissant si on désire changer le monde. Un artiste qui n'est pas un activiste est un activiste mort. Alors moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est simple, c'est efficace, ça arrive complètement dans le récit. Et il y a ce dessin de Gianluca Costantini qui a choisi résolument de faire un dessin au trait d'une grande finesse avec cette précision du tracé. Il y a l'absence de séparation entre chacune des images, une utilisation du noir et blanc et d'une valeur de gris qui est apportée par la hachure, par la juxtaposition de traits, parce que les traits ne se croisent pas, ou alors c'est pour représenter un objet où il y a des lignes qui sont croisées, mais il y a vraiment une volonté d'être dans le réalisme, donc l'attention portée sur le portrait de Ai Weiwei est totale, permanente, et en fait, elle va se décliner aussi, cette précision, sur les autres personnages, les autres personnes qui interviennent dans ce récit. Il y a son fils, il y a beaucoup de politiques chinois, à plusieurs reprises Mao Zedong, puisque Ai Weiwei a eu des liens par son père qui a été victime des choix de Mao Zedong, et lui a vu ses conséquences sur la société chinoise. Il a vécu en Chine où il a été emprisonné, et puis il a quitté la Chine en 2015. Le dessin va vraiment apporter un regard tout à fait particulier, qui n'est pas celui que l'on a l'habitude d'avoir, par la clarté des images. Ce n'est pas un trait appuyé, mais c'est un trait fin et qui donne, par cette intense présence du blanc, une autre atmosphère. Et ça fonctionne parfaitement et ça rentre en résonance, même à plusieurs reprises, avec les œuvres d'art elles-mêmes de Ai Weiwei. Un livre d'une très grande finesse, d'une très grande subtilité, où les qualités scénaristiques d'Eletra Stambouli sont aussi à l'œuvre. On perçoit plus immédiatement l'apport de Gianluca Costantini, mais c'est au final une lecture qui nous immerge dans l'art contemporain et qui montre à quel point la bande dessinée est capable de porter, de parler d'art contemporain et de le mettre en image. Ces réflexions sur l'art vont ouvrir un espace, un horizon, et nous permettre d'avoir d'autres regards sur les œuvres prochaines que nous allons rencontrer. Zodiac, le premier roman graphique d'Ai Weiwei, avec la complicité et la collaboration d'Eletra Stamboulis et de Gianluca Costantini. C'est un roman graphique qui a été publié par les éditions Delcourt dans la collection Mirage. Et les 184 pages de ce livre sont au prix de 23 euros. Le livre a été imprimé en Belgique, le lettrage est du studio Macma et la traduction de Xavier Anard. Merci Antoine pour ces techniques et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre rencontre avec un autre auteur. Bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.